VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 17h à Dakar, 18h à N'Djamena. Bienvenue dans notre journal d'information. Au Nigeria, des membres présumés du groupe islamiste Boko Haram ont attaqué le village de Kawa Jaffa, situé dans le nord-est du pays, ouvrant le feu sur la population et incendiant des maisons. C'est ce qu'a rapporté Ahmad Ali, un habitant du village, à l'AFP. Aujourd'hui, le bilan pourrait dépasser la vingtaine de morts. Kawa Jaffa est situé dans le sud de l'état de Borno, un des fiefs de Boko Haram dont l'insurrection a provoqué la mort de plus de 15 000 personnes en 6 ans, selon un bilan début avril du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Le nouveau président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari, a promis de faire plus que son prédécesseur, Goodluck Jonathan, pour lutter contre le groupe armé. Direction le Tchad, où on apprend aujourd'hui qu'une attaque a fait 7 morts. Une embuscade attribuée là aussi à Boko Haram visait des civils qui se rendaient au marché de Tchoukoutelia, près du lac Tchad. Certaines victimes ont été égorgées, d'autres tuées par balles. C'est ce qu'a indiqué le sous-préfet de Bagassola, cité par l'AFP. Des engins explosifs artisanaux ont été découverts dans les alentours après l'attaque. Et au Cameroun, malgré une baisse des attaques, les autorités camerounaises disent que des membres présumés de Boko Haram font du racket sur les agriculteurs et les éleveurs, dont beaucoup ont été relocalisés loin de la frontière. Idriss Fall.
Selon Midi Yawa Bakari, gouverneur de l'extrême nord du Cameroun, des hommes armés opérant par groupes de 5 à 10 personnes accaparent le bétail, la nourriture et l'argent des habitants le long de la frontière avec l'état de Borno au Nigeria.
La frontière est longue et poreuse. Et cette question, nous le mettons sur le compte de l'approvisionnement en termes de petits détails et autres aliments. Et s'ils viennent casser quelques magasins, ils viennent également peut-être détruire quelques greniers. Mais ça, ce n'est pas des attaques en tant que telles. Ça vise tout simplement le ravitaillement. Et c'est pour dire qu'ils sont vraiment dos au mur et qu'ils cherchent, ça c'est des intuitions qui visent tout simplement la sauvegarde de leur espèce.
Ceux qui refusent de se soumettre à ce racket sont simplement tués, selon Sali Daïrou, originaire du Nord et député à l'Assemblée nationale du Cameroun.
Les bœufs se sont retrouvés en divagation. Personne ne pouvait aller là-bas et ça fait des milliards que nos populations ont donc perdu.
Boko Haram n'a pas mené d'attaque d'envergure depuis plus de 2 mois. Pour le gouverneur Midi Yawa, c'est un signe des difficultés qu'ont les islamistes à se regrouper face à l'offensive des forces sous-régionales. Et il ne donne plus beaucoup de temps à vivre aux djihadistes nigériens.
Idriss Fall. Au Kenya, quelques jours après l'attaque de l'université de Garissa, les forces militaires ont mené des frappes aériennes contre des positions d'Al-Shabaab en Somalie voisine. Les détails, Bagassikoura.
L'aviation kenyane a frappé dimanche 2 camps dans la région de Gedo, située au sud de la Somalie. Aucun bilan immédiat sur les pertes ou les dommages causés par ces frappes. Al-Shabaab a mené plusieurs attaques au Kenya au cours des dernières années. La dernière en date est celle contre l'université de Garissa, proche de la frontière somalienne. Une attaque qui a fait 148 morts et Al-Shabaab promet d'autres actions à moins que le gouvernement kenyan retire ses troupes de la force africaine engagée contre les islamistes en Somalie. À Garissa, les forces de sécurité ont combattu les militants pendant 15 heures et ont sauvé plus de 500 étudiants. Mais plusieurs journaux kenyans ont critiqué ce qu'ils ont décrit comme une réponse lente du gouvernement. L'AFP rapporte qu'il a fallu 7 heures aux forces spéciales kenyanes pour arriver sur le site.
Le Burundi a obtenu le rappel du représentant de l'Union africaine à Bujumbura. Le départ de Boubacar Diarra aurait été motivé par son rôle dans les objections internationales à un nouveau et troisième mandat du président burundais. Un Néerlandais détenu au Mali par le groupe islamiste ACMI a été libéré ce matin par des soldats des forces spéciales françaises lors d'une opération dans l'extrême nord du Mali. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministère de la Défense. Lors des combats, plusieurs autres individus auraient été capturés. Par contre, c'est toujours l'inquiétude au Burkina Faso où les forces de sécurité ne trouvent pas trace de l'agent de sécurité roumain enlevé samedi à Tambao, une mine du nord du pays. Selon l'AFP, les autorités burkinabées envisageraient même de poursuivre les ravisseurs dans les pays frontaliers comme le Mali et le Niger. Le rapt de samedi est une première au Burkina, pays qui avait été alors jusqu'alors épargné par les enlèvements d'occidentaux, contrairement au Mali et au Niger voisins. Et Burkina Faso toujours, querelle politique au pays des hommes intègres. Le parti fondé par Blaise Compaoré met en garde. Il s'opposera vigoureusement au projet de loi qui prévoit explicitement d'exclure les proches du président déchu des élections d'octobre. Le texte qui doit être voté demain prévoit d'exclure de toutes les élections tous les membres du dernier gouvernement du président Compaoré et toute personne qui a soutenu ouvertement ou publiquement la modification de l'article 37 de la Constitution. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, ne pourra faire barrage à ce texte car l'ancienne majorité ne compte que 10 députés sur les 90 de l'Assemblée intérimaire du CNT. Malgré des appels à manifester mardi, ont été lancés par des organisations de la société civile soutenant Blaise Compaoré, précise l'AFP. En Tunisie, le procès de 77 personnes, pour la plupart en fuite, jugées pour leur implication présumée dans une attaque djihadiste sanglante contre l'armée, a été reporté au 18 mai à la demande de la défense. Seules six des personnes poursuivies sont en détention, selon le parquet. Les accusés sont jugés sur la base de la législation antiterroriste et risquent des peines pouvant aller jusqu'à la peine capitale, même si celle-ci n'est plus appliquée en Tunisie. Enfin, au Togo, prolongation des congés de Pâques. Le gouvernement a annoncé que la rentrée scolaire fixée initialement demain était reportée au 4 mai prochain. La raison principale, il faut que la présidentielle du 25 avril se déroule en toute sérénité.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Et l'actualité dans le reste du monde, dossier nucléaire iranien, le président Barack Obama tente toujours de convaincre les Américains et ses partenaires israéliens que l'accord cadre signé la semaine dernière avec Téhéran est un bon compromis. Le chef de l'exécutif américain a répété hier que la sécurité d'Israël n'est pas remise en cause. Nicolas Pineau.
Dans une interview accordée au New York Times, Barack Obama a répété que la défense d'Israël par Washington était inébranlable. L'administration américaine a d'ailleurs rappelé début mars à Israël qu'elle lui avait apporté pour plus de 20 milliards de dollars d'aide militaire depuis 2009. Balayant les critiques israéliennes, le président américain a réaffirmé que l'accord cadre signé avec l'Iran était le meilleur compromis possible.
There is no option to prevent Iran from getting a nuclear weapon.
Il n'y a pas d'autre option plus efficace pour empêcher l'Iran d'obtenir la bombe atomique que les efforts diplomatiques et l'accord que nous avons trouvé, et c'est démontrable.
And that's demonstrable.
Balayant ses assurances, Benjamin Netanyahou a dénoncé l'accord sur le programme nucléaire iranien. Aux yeux du chef du gouvernement israélien, cet accord cadre est très mauvais.
It leaves the preeminent terrorist state of our time.
Il laisse l'état terroriste prééminent de notre époque avec une large infrastructure nucléaire. Cet accord est un rêve pour Téhéran, mais un cauchemar pour le monde. L'Iran et la communauté internationale ont jusqu'au 30 juin prochain pour signer un texte définitif.
En Syrie, environ 300 civils kurdes qui se rendaient à Alep, dans le nord du pays, ont été enlevés à l'ouest de la ville par des insurgés islamistes. C'est ce qu'ont indiqué des sources kurdes à l'AFP. Il n'était pas immédiatement clair quel groupe rebelle était derrière ce rapt, même si des responsables ont accusé les djihadistes du front al-Nusra, très actifs dans cette province d'Idleb. Le front al-Nusra, branche syrienne d'Al-Qaïda, s'est emparé d'Idleb, la capitale de la province du même nom, le 28 mars dernier, avec l'aide d'une coalition d'organisations rebelles islamistes. Et quelques de mauvais échos en provenance du Yémen, de nouveaux combats entre rebelles chiites et partisans du président ont fait au moins 114 morts, alors que la Croix-Rouge est toujours dans l'impossibilité d'acheminer une aide humanitaire. La situation empire d'heure en heure dans un pays où les hôpitaux, faute de médicaments, ne peuvent plus soigner les blessés, qui se compte par centaines, mais aucune aide n'arrive de l'extérieur. Le Comité international de la Croix-Rouge fait état de problèmes logistiques. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous dans 20 minutes pour notre édition du soir, Le Monde Aujourd'hui, présenté par Morgane Guiriec et Idrissa Sedoudia. Bonne soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info.